Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Et voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Le greffier de l'Assemblée législative des TNO, Tim Mercer, fera l'objet d'une enquête indépendante après avoir été criblé d'allégations d'intimidation et d'abus de pouvoir. Le 10 mars 2020, un député a été privé de son droit à exercer ses fonctions parlementaires dans la langue officielle de son choix. C'est ce que conclut un comité qui, après coup, a été chargé d'examiner les règles de l'Assemblée législative. On vous en parlait la semaine dernière, les chasseurs qui bloquaient les voies d'accès à la mine Mary River au Nunavut ont levé le camp après une semaine de blocus. Ma collègue Nelly Guidici nous donne les détails de ce conflit qui a fait beaucoup parler au Nunavut. Dans la région du Slave Sud des territoires du Nord-Ouest, une nouvelle étape est enclenchée pour la rouverture de la mine de zinc Pine Point, qui pourrait reprendre ses activités en 2024. Au Nunavik, la société Makivik a élu son nouveau président, Pita Atahami, un changement de garde qui pourrait avoir des répercussions sur les négociations pour l'autonomie du Nunavik. Denis Laure nous en parle. Les personnes transgenres, non-binaires et au genre non conforme peuvent maintenant recevoir un diagnostic de dysphorie de genre ici même au territoire du Nord-Ouest, une première étape pour entamer un processus de conversion. J'en discute avec ma collègue Marie-Soleil Desautels. Et finalement, les plaintes relatives aux services offerts dans les langues officielles des TNO sont-elles vraiment traitées? Baptiste Foisy a consulté pour nous le dernier rapport de la commissaire aux langues. Trois allégations d'intimidation et d'abus de pouvoir sont tombées en moins d'une semaine à l'endroit du greffier de l'Assemblée législative, Tim Mercer. On apprenait le 17 février que le bureau du greffier fera l'objet d'une évaluation indépendante en milieu de travail. Deux jours plus tôt, le député de Tunedé Will Day, Steve Norn, avait convoqué la presse pour réclamer une telle procédure.
The Legislative Assembly of the Northwest Territories has become infested with an ethical rot that is undermining the well-being of staff, elected officials, and even our democracy.
Une pourriture éthique à l'Assemblée qui affecterait jusqu'à la démocratie. Steve Norn en avait beaucoup à dire à l'endroit du greffier Tim Mercer, qui l'accuse notamment d'abus d'autorité et d'intimidation à l'endroit d'employés de l'Assemblée législative, mais également de députés.
The occupant of that office has accumulated great power and influence over the years and has used it to bully, demean, and terrorize his subordinates and even threaten the well-being of elected members.
Le greffier de l'Assemblée législative aurait donc usé de son pouvoir, selon Steve Norn, pour intimider, dégrader, même terroriser certains employés de l'Assemblée législative, ainsi que certains députés. Un climat de travail que le plus haut fonctionnaire de l'Assemblée imposerait, selon M. Norn, depuis 14 ans. Au lendemain de cette déclaration, on apprenait que M. Mercer prenait un congé avec solde. Plus tôt cette semaine, le réseau CBC rapportait les déclarations émises dans une lettre partagée par une employée du bureau de M. Mercer, April Taylor. Elle y ferait état d'un climat de travail toxique imposé selon elle depuis des années et à plusieurs employés. Selon ce que rapporte la CBC, au lendemain de ces allégations, Mme Taylor aurait été suspendue avec solde jusqu'au 14 mars dans l'attente d'une enquête pour violation de la confidentialité. Mme Taylor dit envisager, toujours selon CBC, que cette dénonciation pourrait entraîner son congédiement. Les employés de l'Assemblée législative des TNO ne bénéficient pas de la protection pour les lanceurs d'alerte. Steve Norn accuse également Tim Mercer d'ingérence au sein de l'Assemblée législative.
The role of the office of the clerk is to guide MLAs on procedural matters and assist us on doing our work. Period.
Le rôle du greffier se limite à guider les membres de l'Assemblée sur des questions de procédure et à nous assister dans notre travail, a souligné M. Norn. Il indique que le greffier a pourtant profité de son rôle pour prendre des décisions unilatérales dans plusieurs dossiers. Quand des députés ont rapporté cette ingérence, M. Mercer aurait répondu de façon colérique en employant un langage dégradant. Steve Norn affirme avoir formulé trois plaintes au bureau de régie contre M. Mercer. Aucune réponse n'aurait été fournie, ce que le député qualifie de préoccupant. M. Norne est donc la troisième personne en moins d'une semaine à porter ce type d'allégation contre Tim Mercer. La directrice générale des élections des territoires du Nord-Ouest, Nicole Latour, a partagé une lettre au président de l'Assemblée législative ainsi qu'à 15 autres destinataires le 12 février. Selon l'agence Norton News Services, qui aurait vu la lettre, Mme Latour y accuse M. Mercer de harcèlement continu à son endroit. Le bureau de régie confirme avoir discuté des allégations formulées par Mme Taylor et Latour lors de rencontres à huis clos les 11 et 12 février. Dans une déclaration qui aurait été émise par courriel aux médias Cabin Radio, Tim Mercer pointe une attaque groupée et un cirque médiatique injuste à son endroit. Il se dit persuadé que la vaste majorité des députés et employés qui travaillent ou qui ont travaillé pour lui infirmeraient ces allégations. Il a notamment commenté les allégations de Mme Taylor en indiquant que ces allégations manquent cruellement de crédibilité et qu'elles relèvent d'un manque de volonté de la part de Mme Taylor ainsi que de la part d'un petit nombre d'autres plaignants de suivre un processus dirigé en bonne et due forme. M. Mercer aurait fait l'objet d'allégations semblables en 2018 qui auraient été rejetées au terme d'une enquête du bureau de régie. C'était le 10 mars 2020. Le député de Montfouy, Jackson Lafferty, a quitté précipitamment l'Assemblée législative parce qu'aucun service d'interprète n'était alors disponible pour lui permettre de s'exprimer dans sa langue, le tlitchon, et de se faire comprendre par les autres députés. Un rapport qui découle de cet incident a été publié en février par un comité constitué de députés qui a été chargé d'étudier la question de l'utilisation des langues officielles à l'Assemblée législative. Parmi les 8 recommandations incluses dans le rapport, on suggère qu'en l'absence d'interprète pour transmettre les propos d'un député durant les travaux de la Chambre, le président de l'Assemblée devrait sérieusement considérer d'annoncer une pause, voire d'ajourner les procédures jusqu'à ce qu'un interprète soit disponible. Mais plus encore, le comité recommande l'élaboration de politiques claires sur l'usage des 11 langues officielles du territoire à l'Assemblée. À l'heure actuelle, les règles sur les langues officielles à l'Assemblée législative ne sont pas clairement définies. Le comité, qui est présidé par le député de Frame Lake, Kevin O'Reilly, recommande de mettre cette politique en place d'ici la fin du mandat de ce gouvernement. Une recommandation qui sera débattue en chambre dans le cadre de la session d'hiver qui est présentement en cours. La formation d'interprètes au territoire du Nord-Ouest figure parmi les principaux éléments de cette politique telle que proposée par le comité. Depuis 1996, il n'y a aucun programme de formation officiel en traduction et interprétation au TNO. Toutefois, le gouvernement a prévu 600 000 $ dans le budget 2021-2022 pour l'élaboration d'un programme de diplôme en langues autochtones. Ce diplôme serait offert dans la programmation de la future Université Polytechnique. Le 12 février 2021, un groupe d'une dizaine de chasseurs originaires des communautés de Pond Inlet et d'Arctic Bay ont évacué la piste d'atterrissage de la mine de fer Mary River. La veille, la juge Susan Cooper de la Cour de justice d'Iqaluit a émis une injonction pour imposer cette évacuation. On vous en parlait brièvement la semaine dernière, mais ma collègue Nelly Guidici a recueilli les détails de cette affaire qui a fait beaucoup parler au Nunavut. Bonjour Nelly.
Bonjour Toba.
D'abord Nelly, vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé.
Alors, ce groupe de chasseurs, qui est aussi connu sous le nom des gardiens du territoire Nulurat, qui est le nom traditionnel de l'endroit où se trouve la mine, ont décidé d'occuper la piste d'atterrissage qui appartient à la mine dès le 4 février. Cette piste d'atterrissage, en fait, elle est fondamentale pour la mine parce qu'elle permet les rotations d'employés et l'acheminement de vivres. Donc, par cette occupation, les chasseurs ont exprimé leur protestation à un projet d'agrandissement de la mine. Et c'est la corporation Baffin Land, qui est propriétaire de la mine, qui a déposé ce recours en justice afin de demander l'évacuation de leur piste d'atterrissage et de décollage.
Aux yeux des chasseurs, Nelly, quel est le problème?
Alors, dans le cadre de l'expansion potentielle des activités de la mine, il y a eu des audiences publiques qui ont été organisées par le Nunavut Impact Review Board, qui est chargé d'organiser les audiences avec les personnes des collectivités concernées et recueillir les commentaires et prendre des conclusions. Or, de nombreuses critiques avaient été émises par une partie de la population de Pond Inlet, notamment parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour s'exprimer et qu'il y avait une limitation dans le nombre de questions qui pouvaient être posées pendant ces audiences publiques. Donc les chasseurs ont occupé la piste d'atterrissage pour montrer leur opposition et surtout leur mécontentement quant à la façon dont ces audiences publiques ont été organisées.
Et Nelly, on se doute du mécontentement là, du côté de la direction de la mine, mais comment les collectivités de la région ont réagi à cette manifestation?
Alors, dans le cadre de ce dossier, j'ai eu l'occasion de parler avec le maire de la collectivité de Clyde River, qui s'appelle Jerry Nathanin. Monsieur Nathanin m'a indiqué par téléphone donc qu'il était très fier de ce qu'avaient fait les chasseurs et qu'il trouvait que l'action de ces personnes était vraiment très honorable car ils ont agi pour protéger la culture traditionnelle inuit qui dépend de la chasse des mammifères marins.
Et les audiences publiques qui entourent ce projet d'expansion de la mine devraient normalement se poursuivre en avril. Nelly Guidici, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Thomas.
Une nouvelle étape est entamée en vue d'une éventuelle reprise des activités de la mine Pine Point dans le Slave Sud. La minière Osisko Metals a annoncé cette semaine que le projet de relance de la mine de zinc est entré en processus d'évaluation environnementale. L'exercice a été confié à la Commission d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie. Si le feu vert est obtenu et que le projet va de l'avant, les opérations seraient mises en branle à partir de 2024. Osisko Metals entame cette nouvelle étape quelques mois après le dépôt d'une évaluation économique préliminaire.
So in this case, the numbers are very encouraging.
Des chiffres encourageants donnent espoir pour la suite des choses, a indiqué le PDG d'Osisko Metals, Robert Wares, dans le cadre d'une rencontre virtuelle le 18 février. La mine de Pine Point pourrait se situer, selon lui, parmi les 10 plus grandes productrices de zinc au monde. Selon les premières estimations, la future mine Pine Point aurait une production annuelle moyenne de 327 millions de livres de zinc et de 43 millions de livres de plomb. Si le projet va de l'avant, la construction de la nouvelle mine Pine Point pourrait permettre l'embauche de 300 à 400 employés, selon le PDG. Comme l'a indiqué M. Wares, la demande pour les métaux de base comme le zinc devrait connaître une forte croissance dans les prochaines années, en raison notamment d'une pénurie annoncée.
So as far as we're concerned, the issue with zinc is certainly not on the demand side. The issue is really with the production side.
Le problème avec le zinc, dit-il, ce n'est pas la demande, mais la production. Il indique que la production de zinc en Amérique du Nord devrait connaître une chute de 35 % dans les 4 prochaines années. Cette situation entraînerait une augmentation du coût de la matière première. Une matière première qui, par ailleurs, selon M. Wears, pourrait être fortement en demande dans les prochaines années.
So this is the time, we believe, to invest in base metals and develop projects.
C'est en plein le temps, nous le croyons, d'investir dans les métaux de base et de mettre des projets en branle, affirme le PDG Robert Wears. Selon Osisko Metals, le virage vers le développement durable, ainsi que les efforts prévus en matière d'infrastructure pour une relance économique post-COVID-19, vont générer une forte demande pour le zinc dans les prochaines années. Le zinc est un élément clé pour freiner l'oxydation des bâtiments et des voitures, par exemple, et assurer leur durabilité. La mine de Pine Point a connu une première vie de 1964 à 1988. 2000 personnes habitaient alors la collectivité qui, depuis la fermeture de la mine, a été désertée. Et du côté du Nunavik maintenant, Pita Ata'ami a succédé à Charlie Watt à la tête de Makivik lors des élections du 4 février dernier, un changement de garde qui pourrait avoir des répercussions sur les négociations pour l'autonomie du Nunavik. Pour en parler, j'ai avec moi Denis Laure. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas.
Denis, d'abord j'aimerais que vous nous expliquiez le rôle de la société Makivik au Nunavik.
la société McVic qui gère les droits, les bénéfices qui découlent de la Convention de la baie James et du Nord québécois pour les Inuits du Nunavut. Et McVic les représente, ces Inuits-là, aussi auprès des gouvernements canadiens et québécois. Il y a l'administration régionale Kativik aussi, qui est une des instances des habitants du Nunavut, mais c'est vraiment McVic, on peut dire, qui tient lieu de gouvernement pour les quelques 10 000 Nunavinutes. C'est d'ailleurs McVic qui a mis en place le référendum de 2011 où la mise en place d'un gouvernement régional avait été refusée par environ 66 % de la population.
C'est d'ailleurs Pita Atami qui était président de McVic à cette époque, là, vous me l'appreniez avant qu'on se parle. Là, il l'a été entre 1998 et 2012. Est-ce qu'on s'attend à un meilleur résultat de sa part aujourd'hui?
Ça reste à voir, mais c'est ce que m'a affirmé le maire de Coudjouarapik, Anthony Itochat. Monsieur Itochat reproche à Tchaliwak d'avoir voulu négocier l'autonomie du Nunavik en négligeant le Québec en 2018 et 2019, alors que le Nunavik est rattaché à la province par la loi de 1912 sur l'annexion de Lungava. On écoute, si vous voulez, M. Itochat.
Since I was invited to the meeting to discuss the file where all the mayors and presidents of landowners were invited, so we were allowed to speak. So I asked a very first question I asked, where's Quebec? They dance around it, they blah, blah, blah. We're working with that. With Canada now, they said under the surrender clause was illegal, that it doesn't apply, that they were constitutionally protected, and that, you know, they went on and on about why they don't want to include Quebec. It didn't make sense to me. And certainly a few other people asked the same question, but they got the runaround again. They couldn't answer straight.
Donc le maire Anthony Itochat qui explique que pendant une rencontre entre maire du Nunavik, il a demandé où était le Québec dans les négociations. Les représentants de la société McVic aurait répondu que la présence du Québec n'est pas nécessaire. Aucun maire, selon lui, en fait, selon M. Itochat, ne croit en fait qu'on peut obtenir la souveraineté juste en négociant avec le fédéral, donc en rejetant le Québec de la table de négociation. Denis, M. Itochat a ajouté que les relations entre le Nunavik et le Québec n'étaient pas très bonnes durant la présidence de Charlie Watt, qui a duré plusieurs mandats.
Oui, effectivement. Ça pourrait s'améliorer avec M. Pita Atami. Pita Atami a rencontré le ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Yann Lafrenière, le 14 février dernier. L'attaché de presse de M. Lafrenière a qualifié la rencontre de positive. Il m'a dit que les deux politiciens se sont entendus pour relancer la table de travail, quoi que ça puisse vouloir dire. On ne m'a pas précisé si cette table de travail-là comprenait des négociations sur l'autodétermination du Nunavik. Parce que le Nunavik a négocié un protocole d'entente avec le gouvernement fédéral, qui a été signé en juin 2019, qui comprend des articles décrivant les objectifs, les questions qui vont faire l'objet de négociations, des plans de travail, du financement, etc. Donc, ces rencontres-là se seraient poursuivies jusqu'en 2020, mais on n'en sait pas plus. La confidentialité de tout ça fait partie de l'entente qu'il y a eu entre les deux parties.
Donc, en attendant l'autonomie, Pita Atami a indiqué que ses priorités seraient le développement des infrastructures au Nunavik ainsi que la guérison des problèmes de dépendance à l'alcool et aux drogues. Denis Laure, merci beaucoup.
Merci Thomas, bienvenue.
Les personnes transgenres, non-binaires et au genre non-conforme peuvent maintenant recevoir un diagnostic de dysphorie de genre ici même au territoire du Nord-Ouest. Ma collègue Marie-Soleil Desautels s'est penchée sur la question cette semaine. Bonjour Marie-Soleil.
Bonjour.
Marie-Soleil, l'une des nouveautés, c'est qu'il n'est plus nécessaire pour les personnes concernées d'obtenir un diagnostic de la part d'un psychiatre. Qu'est-ce que ça signifie ça pour les personnes concernées?
Permettez-moi d'abord de définir ce qu'est la dysphorie de genre. C'est un terme médical qui désigne l'inconfort ou la détresse d'une personne qui a un sentiment d'inadéquation entre son identité de genre et son sexe biologique. Mm-hmm. Alors, avant les nouvelles lignes directrices introduites fin janvier, les patients devaient se rendre une ou plusieurs fois en Alberta pour obtenir ce diagnostic. En effet, les territoires du Nord-Ouest n'avaient pas de psychiatre spécialisé dans le domaine. Alors, la personne n'est plus obligée de se rendre à l'extérieur du territoire pour raconter son histoire à l'étranger. Et convenons-le, c'est un processus qui peut créer beaucoup d'anxiété.
Ben oui.
La Rainbow Coalition de Yellowknife nous a aussi confirmé qu'il y avait beaucoup d'attentes pour rencontrer un psychiatre. Alors, le processus en est ainsi allégé, car il est possible d'obtenir un diagnostic de dysphorie de genre de la part d'un praticien.
Alors là, plus besoin de psychiatre, mais quel praticien va pouvoir poser ce diagnostic-là?
Le diagnostic de dysphorie de genre pourra être réalisé par un praticien en soins de première ligne qui a une vaste expérience ou une formation officielle dans les soins offerts aux personnes transgenres, non-binaires ou aux genres non conformes, selon les nouvelles lignes directrices. Si jamais le praticien que la personne rencontre n'a pas cette expertise, il pourra diriger le patient à un expert clinique qui la détient. Et ces experts cliniques-là pourraient être des médecins, des infirmières praticiennes ou autorisées, des psychologues, des travailleurs sociaux. Et eux-mêmes pourraient demander l'avis d'un psychiatre au besoin pour évaluer l'accès aux soins.
J'entends plusieurs personnes d'ici se poser la question. Marie-Soleil, est-ce qu'il y a plusieurs praticiens qui ont ces compétences ici au territoire du Nord-Ouest?
J'ai posé la question aux personnes responsables des communications au ministère de la Santé et des Services sociaux et ils n'ont malheureusement pas répondu, alors impossible de répondre. Cela dit, Chelsea Tucker, qui est la tête de la Rainbow Coalition, m'a dit que son organisme travaillait sur un programme de formation. Ce sont entre autres des experts du ministère de la Santé et des Services sociaux, des praticiens de première ligne expérimentés, des défenseurs des droits des patients et la Rainbow Coalition de Yellowknife qui ont collaboré au développement des lignes directrices. Ils ont travaillé sur celles-ci depuis août dernier. Auparavant, il n'y avait rien de formel.
Donc, on attend de voir si les praticiens vont répondre à la demande, mais c'est quand même une étape importante. Est-ce que ces nouvelles lignes directrices sont bien accueillies au territoire?
Oui, surtout que le diagnostic de dysphorie de genre peut désormais être obtenu ici. Cela dit, la Rainbow Coalition est d'avis que ça ne va pas assez loin et que, par exemple, un tel diagnostic ne devrait même pas être nécessaire. Cela dit, le gouvernement a basé ses règles sur les plus récentes normes de soins suggérées par l'Association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres, dont la 7e édition a été publiée en 2011. Le processus demeure très, très encadré.
Et Marie-Soleil, tout ce processus de transition, l'approbation par des experts, ça demeure un sujet encore très controversé, là, surtout en ce qui concerne les personnes mineures.
Oui, il y a plusieurs écoles de pensée chez les experts. Certains vont prôner une approche affirmative où l'on croit le patient et suggèrent d'aller de l'avant avec l'obtention d'un consentement éclairé et sans évaluation psychologique. D'après eux, ces évaluations-là inciteraient à fournir des réponses toutes faites aux praticiens. D'autres experts, au contraire, constatent, par exemple, que l'homophobie vécue par un jeune peut être telle qu'il désirera changer de sexe et qu'une investigation rigoureuse permet de s'assurer que ce souhait-là n'est pas passager. D'ailleurs, comme le souligne l'Association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres dans son document, les expressions et les identités de genre sont variées et les hormones et les chirurgies des liens sont deux des nombreuses options disponibles pour aider les personnes à trouver un équilibre entre eux-mêmes et leurs sentiments d'identité.
Parfait. Eh bien, Marie-Soleil Desautels, merci beaucoup. Il arrive avec plusieurs semaines de retard, mais il est là. Le rapport annuel de la commissaire aux langues des territoires du Nord-Ouest pour l'exercice 2019-2020 a été déposé le 12 février à l'Assemblée législative. Baptiste Foisy a épluché ça pour nous. Bonjour, Baptiste.
Bonjour, Thomas.
Baptiste, il s'agit du dernier rapport de la commissaire sortante Shannon Goldberg.
Oui, on rappelle que Mme Goldberg, son mandat s'est terminé en octobre dernier et cet exercice-là couvre la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Alors, ce qu'on retrouve là-dedans, là, c'est des choses qui remontent à il y a un an et un peu plus.
Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce rapport-là, Baptiste?
Honnêtement, Thomas, il n'y a pas grand-chose dans ce rapport-là. Mm-hmm. C'est un rapport où on relit des choses que la commissaire aux langues officielles aura écrites durant les 5 années de son mandat. Mais il y a quand même, là, et ça c'est le nœud là, d'un rapport sur les langues officielles, c'est le traitement des plaintes. Ça sert à ça, le bureau de la commissaire aux langues.
Oui.
Elle reçoit les plaintes du public, les fois où les gens considèrent qu'on n'a pas respecté la loi sur les langues officielles, là, qui dit que vous avez le droit d'être servi dans votre langue au territoire du Nord-Ouest. Là, il y a 11 langues officielles. Je ne les nommerai pas tous, mais vous les connaissez, y compris le français, bien sûr. Mais ce qui est un peu désolant, c'est que, bon, il y a 23 plaintes, là, dans ce,
23 plaintes,
qui ont été traitées dans cet exercice-là, ce qui est beaucoup, là, qu'on pense que dans les deux exercices précédents, il n'y avait eu aucune plainte.
Mm-hmm.
Alors, c'est une augmentation de, j'allais dire, de 230%, là, mais même plus que ça, en fait, parce qu'on de 0 à 23. Mais ce qui est un peu plate, c'est qu'on n'en dit pas beaucoup sur ces plaintes-là. Ça tient en deux paragraphes dans le rapport, l'analyse des plaintes. Il n'y a pas d'informations sur la nature des manquements qui étaient relevés par les plaignants. On ne sait pas si les plaintes étaient fondées ou infondées. Il n'y a pas non plus de recommandations qui sont émises par rapport aux dossiers qui ont été traités, tant et si bien là, qu'on ne sait pas vraiment là, si le gouvernement là, avait respecté la loi sur les langues officielles. Là. La réponse, simplement, n'est pas dans le rapport.
Mm-hmm.
Moi, j'ai parlé avec deux personnes qui étaient des gens qui ont déposé des plaintes durant l'exercice 2019-2020. Je leur ai montré qu'est-ce qui en sortait dans le public. Et là, les deux personnes avaient essentiellement le même discours. Là. Ils étaient estomaqués là, de constater qu'il n'y avait pas de trace des efforts qu'eux avaient donné. En particulier, je me suis adressé à Mme Suzanne Hood, qui a bien voulu sortir de l'anonymat puis se présenter. Mme Hood, là, c'est juste vous la présenter un peu le personnage. C'est une personne pour laquelle la loi sur les langues officielles a été inventée. Là. C'est une locutrice unilingue. Sa langue, c'est le français. Qui habite au territoire du Nord-Ouest et qui, en plus de ça, a des difficultés de santé. Elle souffre d'hypertension, de diabète. Elle doit fréquemment se rendre dans les édifices de santé, les services de santé des territoires du Nord-Ouest. Et elle a, depuis des années, de grandes difficultés à se faire traiter en français. C'est la seule langue qu'elle parle.
Et elle a besoin de services de santé en français. C'est important.
C'est ça. Et elle est au courant que le gouvernement est censé lui prodiguer ces soins-là. Pendant des années, elle a fait des plaintes en allant voir sa députée, des choses comme ça. Mais là, dans l'année 2019, elle a décidé qu'elle passait par le commissaire aux langues officielles et elle a déposé plusieurs plaintes, plus d'une dizaine, Thomas. Donc, essentiellement, la moitié des plaintes qui ont été traitées par le commissaire aux langues en 2019-2020, c'était les plaintes de Mme Hood.
Mm-hmm.
Quand Mme Hood a constaté que finalement, il n'y avait pas vraiment
Il n'y a pas de bilan,
en fait, de ce qu'elle dénonçait. Elle était très, très fâchée de tout cela. Et elle a l'impression, là, cette femme-là, qu'elle est à bout de recours. Je vous laisse écouter son témoignage.
J'ai rencontré deux fois les ministres de la Santé, les nouveaux, les deux nouveaux ministères de la Santé. J'étais allée à la commission francophone. J'étais allée aux langues officielles. J'ai rencontré les employés de la santé. J'ai vu la direction de l'hôpital, puis il y a plusieurs personnes qui étaient là, même la madame qui s'occupait du service en français à l'hôpital qui parle juste anglais, elle n'a même pas pu me parler. Il a fallu que quelqu'un traduise. J'étais allée à l'association francophone, j'étais allée au droit de la personne, puis rien ne bouge. Puis là, ça fait plusieurs années que je me bats, j'étais allée en cours, j'ai gagné. Puis rien se passe. Il attend-tu que je meure avant de faire quelque chose?
Donc, pas de service, mais c'est pas faute d'avoir fait beaucoup, beaucoup d'efforts, là, comme on vient de l'entendre. Baptiste, est-ce que la commissaire aux langues a bien effectué le suivi de ces 23 plaintes?
Ben, écoutez, comme je vous dis, il n'y a pas de traces dans le rapport, là, mais le rapport, si on le lit, ça suggère que oui, il est écrit dans ce rapport, chaque plainte fait l'objet d'un rapport et de recommandations. Moi, j'ai décidé que j'allais contacter le bureau de la commissaire aux langues pour qu'on puisse voir ses rapports et ses recommandations. Ils n'ont pas voulu nous présenter les documents en invoquant la confidentialité du processus. Quand j'ai demandé à Mme Hood si on lui avait remis ses rapports de plainte, elle m'a dit que non, on ne lui avait pas remis de rapport de plainte.
Et c'est un peu le but d'un tel exercice. Est-ce que la commissaire aux langues émet des recommandations?
Tout à fait, Thomas. Il y a deux recommandations qui sont émises dans ce rapport. Aucune recommandation, je le répète, qui ont trait aux 23 processus de plainte, mais deux recommandations néanmoins. La première, c'est une recommandation que Mme Goldberg aura faite pratiquement à chaque année de son mandat. Elle demande essentiellement qu'il y ait un processus formel pour que le gouvernement lui réponde, parce qu'elle a l'impression que les recommandations qu'elle fait depuis toutes ces années ne mènent à rien. Elle réitère cette demande là, qu'il y ait un processus formel pour répondre au rapport de la commissaire aux langues. Et aussi, une nouveauté, elle demande à ce que soit enchâssé dans la loi, parce qu'on est en train de la réviser, un certain concept là, de médiation. C'est une nouvelle approche qu'elle dit avoir employée au courant de cet exercice-là pour tenter de résoudre les différends entre les plaignants et le gouvernement. Et elle en parle là, avec beaucoup d'enthousiasme de cette façon de faire-là. Madame Goldberg aimerait essentiellement là, que ça soit partie de la loi de pouvoir, non pas là, faire une enquête, mais plutôt de faire s'asseoir les autorités avec les plaignants pour qu'on puisse se comprendre. Et j'ai fini par comprendre que c'est la personne sur qui on a testé cette façon de faire-là. En fait, c'était Madame Hood qu'on a entendu tout à l'heure. Et j'ai demandé à Mme Hood si elle, qu'est-ce qu'elle en pensait, si elle était aussi enthousiaste que la commissaire aux langues. Pas du tout. Elle semble qu'elle n'a pas du tout aimé cette façon de faire-là. Je lui ai demandé, est-ce que ça devrait être mis dans la loi, cette façon de faire? Écoutez sa réponse.
Comme moi, mon impression que j'ai, là, c'est que, tu sais, vu qu'il n'y a rien qui a bougé depuis toutes les rencontres, que, ben, je trouve qu'il rit de moi en pleine face.
Alors voilà, Suzanne Hood, elle pense que c'est elle qui les a fait ces médiations-là. C'est avec elle que ça s'est passé. Elle a dit, ne faites pas ça. J'ai demandé aussi si on va à la bureau de la commissaire aux langues et qu'on vous propose une médiation plutôt qu'une enquête. Est-ce qu'on le prend? Elle a dit non. Elle a déconseillé aux gens de le faire. Elle a dit, demandez plutôt une enquête en bonne et due forme.
Baptiste Foisy, merci beaucoup.
Je vous en prie, Thomas.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.